Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Baptiste Lénard. Nouvelle série que nous allons consacrer à ces frontières si particulières qui séparent des territoires qui auraient pu avoir des destins partagés mais qui ont emprunté des voies différentes ou qui parfois ont du mal à cohabiter entre séparation et réunification des territoires désunis. Demain, nous parlerons des Balkans et des stigmates de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Mercredi, nous partirons sur la DMZ, cette ligne de démarcation entre Corée du Sud et Corée du Nord. Jeudi, il sera question de l'Irlande, où la perspective d'une réunification entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande n'est plus exclue à la faveur du Brexit, même si tout cela inquiète. Mais aujourd'hui, direction l'Allemagne, alors que le pays vient de commémorer le 30e anniversaire de la réunification. Allemagne, Est, Ouest, la frontière fantôme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
En 2020, la République fédérale d'Allemagne est un pays que les Allemands de l'Est et de l'Ouest, les résidents de longue durée et les immigrés, ont façonné ensemble.
Parce que je venais de l'autre partie de l'Allemagne, on m'a insulté, on m'a injurié. Je me suis senti comme un étranger dans mon propre pays.
Aujourd'hui, nous devons à nouveau faire preuve de courage. Le courage de prendre de nouveaux chemins face à une pandémie. Le courage de surmonter entièrement les différences qui subsistent entre l'Est et l'Ouest. Mais aussi le courage d'exiger et d'œuvrer encore et toujours pour la cohésion de notre société.
Il n'y a que les gens de l'Est qui ont dit « Nous sommes un peuple ». Un peuple doit se serrer les coudes et non pas s'insulter.
Nous entendions à l'instant dans l'ordre le président allemand Frank-Walter Steinmeier. On entendait également la chancelière Angela Merkel, mais aussi Dirk Schröder, un Allemand de l'Est qui a dû migrer vers l'Ouest pour retrouver du travail. Le 3 octobre dernier, l'Allemagne célébrait les 30 ans de sa réunification officielle, c'est-à-dire le moment où les 5 Länder de l'ex-RDA ont fait leur entrée dans la République fédérale d'Allemagne. Ce rendez-vous annuel est toujours l'occasion de mesurer l'avancement des choses et de regarder si, oui ou non, cette réunification est enfin parachevée. En l'occurrence, force est de constater qu'il reste encore du chemin et que l'unité n'est pas encore totale. Puis, il semble même que les divisions se fassent plus ostentatoires et qu'un sentiment d'abandon à l'Est soit de plus en plus prégnant. Retour en force des termes Vesis et Ossis, désignant respectivement une personne provenant de l'ex-RFA ou de l'ex-RDA, en étant l'une des illustrations. Un taux de chômage plus élevé qu'à l'Ouest, des niveaux de salaire moindres, un déclin démographique, la frontière pourtant physiquement et institutionnellement tombée, demeure bel et bien. Alors 30 ans après la réunification, que reste-t-il de cette frontière fantôme entre les deux parties de l'Allemagne? Quels sont les obstacles qui rendent si difficile le parachèvement du processus? Quelles conséquences politiques et quels risques aussi pour une Allemagne qui doit relever de nombreux défis, dont celui de l'intégration des migrants à qui le pays a choisi d'ouvrir ses portes? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Elisa Goudin-Steinmein. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 3 et vous êtes co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et les Nouveaux Länder. Et puis vous avez co-signé avec Agnès Harp la RDA après la RDA, des Allemands de l'Est racontent aux éditions du Nouveau Monde. Avec nous également depuis Strasbourg, depuis France Bleu Alsace. Bonjour Emmanuel Droit.
Bonjour.
Également d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et vous venez de signer également un ouvrage sur notre sujet du jour, 24 heures de la vie en RDA, qui était paru au PUF au mois de septembre. Alors peut-être un mot, Elisa Goudin-Steinmein, on va commencer avec vous. Je le disais, l'Allemagne vient de commémorer donc les 30 ans de la réunification. une décennie, c'est important. Alors, on va évidemment regarder celle d'avant, la décennie d'avant, l'anniversaire de 2010. Est-ce qu'il vous semble que là, c'est un anniversaire aujourd'hui qui s'est déroulé dans des conditions assez semblables de celui de 2010, ou il vous semble qu'en réalité, les choses sont très différentes et que d'ailleurs, les débats qu'il y a autour de cette question de la réunification ont beaucoup changé en 10 ans?
Non, c'est une commémoration très différente. Je crois à cause de la montée de l'AFD notamment, l'heure n'est pas tellement à l'enthousiasme, au bilan positif de toutes ces évolutions comme ça pouvait être le cas en 2010. On sent un ton quand même très différent. Ça, c'est partagé à peu près par tout le monde. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on est toujours sur des discours autour du fait que l'Est aurait atteint 75% de la puissance économique ouest-allemande et de ça, donc toujours sur des marqueurs en termes uniquement de mesure de l'accroissement du PIB, de la croissance, et on continue à ne pas voir d'autres indicateurs plus positifs de réussite.
Alors on va essayer justement d'aller au-delà, mais il faut aussi faire ce travail parce que il est aussi question de rattrapage économique. Emmanuel Droit, chaque année il y a un rapport qui est rendu sur l'état de l'unité allemande pour comparer les situations économiques et sociales précisément des 16 Länder. Que dit ce rapport cette année? Où en est ce rattrapage économique, Emmanuel Droit?
Mais écoutez, ça fait en gros depuis 30 ans que les indicateurs, on va dire macroéconomiques, montrent que en effet le rattrapage est en cours et que alors il a pris plus de temps que ce qu'imaginaient les acteurs politiques au début des années 90 et notamment Helmut Kohl. Mais vous avez choisi d'intituler votre émission la frontière fantôme. Quand vous regardez au niveau des infrastructures, de l'organisation de l'espace, cette frontière, en effet, elle est plus perceptible lorsque vous prenez l'autoroute et que vous passez de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est. Les paysages se ressemblent, les centres historiques urbains à l'Est ont repris de la couleur. Le gris a été remplacé par du orange, du bleu, du vert. Et quand vous allez dans les petites villes ou les centres historiques des villes d'Allemagne de l'Est, à la limite, vous ne voyez pas de différence. Et en même temps, le terme de frontière fantôme est intéressant parce que vous pouvez mettre l'accent sur, en effet, un certain nombre de différences en termes de revenus, de force économique, de niveau de vie. Il y a toujours un décalage entre l'Est et l'Ouest, mais globalement, le discours dominant des élites politiques ouest-allemandes, c'est de dire que voilà, des progrès considérables ont été faits, des transferts massifs financiers en termes de ressources humaines ont été effectués et que globalement, on arrive 30 ans après le début de l'unification, à un niveau qui est très satisfaisant. Donc il y a un satisfaisant.
De quelle ampleur est de vous couper ce décalage qui reste, qui demeure?
Alors il y a un décalage entre un discours dominant des élites politiques et médiatiques ouest-allemandes qui considèrent que voilà, des efforts financiers en termes d'investissement dans les infrastructures ont été réalisés et que de ce point de vue-là, de très belles choses ont été faites. Et il y a des expériences subjectives négatives en lien avec soit un manque de reconnaissance, soit, ça a été rappelé par votre témoin en introduction, des expériences d'humiliation ou des interactions extrêmement négatives, qui fait que on a encore des Allemands de l'Est aujourd'hui qui considèrent, qu'ils soient à l'Est ou à l'Ouest d'ailleurs, qui se considèrent toujours comme des citoyens de seconde classe. Et forcément, 30 ans après, ça doit interpeller la classe politique allemande, et notamment la CDU, dans la mesure où la promesse de Kohl des paysages florissants, d'une certaine manière, a été tenue sur le plan des infrastructures. Mais il y a quelque chose qui a été manqué, en fait, dans la reconnaissance de ce qu'a pu être une vie ou une trajectoire à l'époque de la RDA.
On va essayer justement de comprendre ce qui a été manqué. Je rappelle juste que dans ce rapport, on apprend par exemple que la richesse des habitants de l'Est atteint 79% des habitants de l'Ouest, ce qui veut dire qu'on est toujours dans une situation où à l'Est, dans les 5 nouveaux Länder, on est 20% moins riche que à l'Ouest et que le chômage est passé sous la barre des 10%, soit. Mais quand on regarde un indicateur très intéressant, je vais vous faire réagir Elisa Gudenstein-Mein, celui de la part du capital transmis sous forme d'héritage en Allemagne. Quand on regarde ça, sur les 200 milliards d'euros transmis sous forme d'héritage, on a seulement 2% qui le sont dans des familles installées dans ces nouveaux Länder. Ça veut dire que le capital, il reste quand même très largement dans l'ex-RFA.
Bah oui, ça c'est pour des raisons historiques, c'est-à-dire qu'en RDA, c'était pas possible de se constituer un capital. Personne en RDA n'aurait eu l'idée d'acheter son logement, par exemple. Donc évidemment, on transmet moins. Mais plus généralement, pour revenir sur ce rapport sur l'état de l'unité allemande, ce genre de titre, 79% de revenus, je trouve que ce sont des indicateurs c'est un peu pernicieux comme raisonnement. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, l'Est va atteindre tant de pourcents si on calcule le PIB par habitant, tant de pourcents de l'Ouest. Mais d'abord, l'économie Est-Allemande, elle est davantage centrée sur la production agricole et l'extraction de matières premières. Donc, par définition, des choses qui ont moins de valeur ajoutée. Donc, la contribution au PIB est nécessairement moindre. Et plus globalement, il faudrait prendre en compte des indicateurs plus durables, comme par exemple l'égalité des chances, le niveau scolaire, l'équité entre les générations, l'engagement civique, plutôt que de réfléchir juste en termes de PIB par habitant, ce qui en 2020, à mon avis, est une vision des choses complètement dépassée. Ça fait 30 ans qu'on calcule des index de développement humain. Parce que la richesse par habitant, c'est une chose, mais est-ce que les inégalités s'accroissent ou non? Les salaires, c'est aussi une chose, mais est-ce que les salaires des hommes sont proches de ceux des femmes ou pas? Le bonheur d'une société, ça se définit pas juste en termes de hauteur des salaires. C'est aussi, est-ce que les écarts sont pas trop importants? Est-ce que...
Et ça, de ce point de vue-là, c'est des choses qu'on mesure, justement, les écarts de salaire.
On les mesure justement, mais on trouve très peu d'écho de ça dans les médias. Mmh. Pour prendre un exemple concret, on mesure aussi le chômage. Et on voit toujours dans tous les médias la carte avec deux couleurs différentes, l'Est et l'Ouest. Et on voit il y a encore 2% d'écart de taux de chômage. On peut faire la même carte avec le Nord et le Sud et l'écart est plus grand. Jamais on voit cette carte qui montre que c'est le Sud où le chômage est bas et le Nord où le chômage est élevé. On montre toujours la carte Est-Ouest. Et ça, je pense que c'est un discours médiatique qui... justement, donne de l'actualité à cette frontière fantôme, pour reprendre le terme, mais une actualité qui ne devrait pas être. On devrait montrer aussi cette carte Nord-Sud, par exemple.
Alors justement, essayons de déconstruire un peu les choses, parce que dans le discours médiatique, il y a quelque chose aussi qu'on entend beaucoup, Elisa Gudenstein-Mein, c'est l'idée qu'il y aurait dans les nouveaux Länder, c'est comme ça qu'on appelle ça, les régions de l'ex-RDA, aussi une corrélation entre les difficultés économiques et le vote AfD. On a beaucoup répété après les élections qu'il y avait des niveaux de vote pour l'extrême droite qui étaient très élevés, plus de 20%, dans certaines villes même plus de 27%.
Oui.
Et on a corrélé les deux choses, c'est-à-dire la situation économique supposément ou réellement difficile et le vote de l'extrême droite. Jusqu'où il vous semble que cette corrélation est justement pernicieuse également?
Ben ça, c'est une question très, très importante. Moi, je pense que c'est un facteur, évidemment, qui joue dans le vote AfD. On le voit, il y a des poches de précarité aussi à l'Ouest, hein, d'ailleurs, et donc on voit une corrélation comme ça. Mais à mon avis, c'est moins important que la colère et la frustration liées à la dévalorisation globale des biographies des Allemands de l'Est. C'était aussi le projet du livre avec Agnès, justement, de reconsidérer, de donner de la considération à ces parcours de vie. On a tous besoin de considération et les Allemands de l'Est notamment parce qu'ils ont subi cette dévalorisation globale. Et je pense que l'AfD est vraiment une conséquence. Alors bien sûr, aussi, je nie pas les difficultés économiques, les services publics qui s'en vont des zones rurales, etc. Bien sûr que ça peut jouer. Mais je pense que c'est aussi ça, cette vision manichéenne des choses qui a joué.
Emmanuel Droit, jusqu'où est-ce que vous corrélez l'état économique de ces régions à cette percée de l'extrême droite en Allemagne, dans cette partie-là?
Oui, je rejoindrai ce qu'a dit Elisa sur sa dernière prise de parole, à la fois la surmédiatisation de la frontière Est-Ouest, sur la corrélation avec l'AfD. Bien rappeler en effet que l'Est vote différemment de l'Ouest encore aujourd'hui. Elle vote surtout dans une logique de vote protestataire. L'AfD et le parti Die Linke, donc le parti d'extrême gauche, sont en quelque sorte des partis fortement ancrés dans les nouveaux Bundesländer, et ça correspond à cette culture de la protestation où un certain nombre d'Allemands de l'Est, depuis le début des années 2000 en fait, hein, depuis les réformes Hartz IV, et j'allais dire même depuis le début des années 90, au moment de la fermeture de beaucoup d'entreprises par la Treuhand, rejoue un petit peu la geste héroïque de novembre 1989, de cette idée que le peuple, lorsqu'il est uni et qu'il descend dans la rue, peut faire changer les choses et peut imposer un rapport de force au pouvoir politique. Et l'AFD, lors des dernières élections régionales à l'Est, dans le Brandebourg ou en Saxe, a très bien joué de ce discours. On vous a volé votre révolution en 89, terminez-la avec nous en votant pour nous.
Vous parlez d'un effondrement. Pardon, vous vouliez poursuivre. Je vous en prie, Emmanuel Droit.
Allez-y.
Vous parliez, Emmanuel Droit, de cette question de la culture de la contestation qui est aujourd'hui assez largement incarnée par l'AFD. Mais c'est vrai que, en d'autres temps, il n'y a pas si longtemps, cette culture de la contestation, elle était beaucoup portée par Die Linke, précisément. Die Linke, qui a une teinte, j'allais dire, est-allemande, assez forte. Il faut rappeler que c'est la fusion entre deux partis. D'un côté, l'alternative électorale travail et justice sociale, qui était un courant né d'une scission avec le Parti social-démocrate, mais de l'autre, c'est le Parti du socialisme démocratique qui était le principal parti en RDA. Donc, est-ce que finalement la montée de l'AFD, c'est pas aussi le résultat de l'effondrement de Die Linke et le fait que, eh bien, l'AFD a tout simplement récupéré cette culture de la contestation que vous évoquez, Emmanuel Droit?
Alors, il y a en partie un phénomène de siphonnage des voix de l'AFD. Ça, c'est indéniable. Mais moi, ce qui me frappe le plus, quand vous regardez les cartes électorales et les dernières analyses des élections régionales, c'est la capacité de l'AFD à repolitiser des électeurs qui étaient tombés dans l'abstentionnisme. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher des citoyens allemands, notamment situés dans les zones périphériques ou en marge des archipels métropolitains dynamiques. Ils ont été les rechercher et ils les repolitisent par la culture de la protestation en leur disant, voilà, vous existez, nous sommes le parti des gens en colère, votez pour nous, parce qu'on vous ment, on vous vole, reprenez un petit peu reprenez votre destin en main comme vous l'avez fait en 1989. Donc il y a à la fois un effet de reprise de la contestation, le Linke apparaissant presque comme un parti de l'establishment, puisqu'ils sont souvent associés à des coalitions gouvernementales. En Thuringe, ils dirigent même avec Bodo Ramelow le gouvernement. On les retrouve souvent dans le Brandebourg associés au SPD à certaines époques, ou dans le Mecklembourg-Vorpommern. Donc ils sont de plus en plus considérés presque comme relevant de l'establishment. Et le vrai parti des protestataires, ça serait l'AFD.
Elisa Gudenstein-Mann, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais dire, en fait, on a beaucoup de paternalisme quand on parle comme ça, des Allemands de l'Est qui ne comprennent pas comment il faut voter, qui vote AFD, etc.
Personne n'a dit ça ici.
Non, personne ne l'a dit, mais les médias le disent beaucoup. Et je crois qu'il faut quand même rappeler une chose importante qui est que, à l'Ouest, la démocratie, elle est arrivée avec le miracle économique, l'État-providence, le plein emploi, etc. Et à l'Est, elle est arrivée avec le chômage massif, les ruptures biographiques, les divorces, le fait de perdre son emploi, ses repères, etc. Donc évidemment que l'adhésion à la démocratie est beaucoup plus problématique et compliquée. Ça ne veut pas dire que... par nature, il faut pas essentialiser les choses, c'est ça qui est important à mes yeux. Et en effet, l'AFD, elle a pris, comme le rappelait Emmanuel Droit, elle a gagné des voix grâce aux anciens abstentionnistes qui ne votaient pas avant. Ça veut pas dire que c'est forcément un vote, en effet, d'adhésion pleine et entière à leur idéologie raciste ou... ce genre de choses.
Elisa Gudenstein-Mein, il y a aussi un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il se trouve que pendant des années, ces régions-là perdaient de leur population et que depuis récemment, depuis 2017 en l'occurrence, le solde migratoire s'est inversé. Ça veut bien dire que d'une certaine manière, ces régions-là sont devenues, ont retrouvé une forme d'attractivité.
Oui, redeviennent attractives.
De quoi est faite cette nouvelle attractivité?
D'abord, il y a à nouveau des emplois, des places en apprentissage, etc. Il y a des étudiants qui reviennent, il y a des jeunes familles qui reviennent. En général, ce sont quand même des Allemands de l'Est qui reviennent auprès de leur famille, parfois après un passage à l'Ouest. Et puis oui, il y a une attractivité, il y a un développement de l'économie, notamment d'agences sur l'environnement, la Clean Tech Initiative, Ostdeutschland, ce genre de choses qui sont attractives et qui attire de jeunes professionnels ou des étudiants vers l'Est. Donc en effet, c'est pas du tout, c'est essentiellement vers les grands pôles, vers les grandes villes dynamiques et pas du tout vers les régions rurales. Donc c'est vraiment par îlot d'attractivité, malheureusement. Ça concerne pas toute l'ex-RDA, cet inversement de la tendance démographique.
Est-ce que on peut dire qu'il existe une identité est-allemande? Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias. Est-ce qu'en Allemagne, on parle d'identité est-allemande, d'identité ouest-allemande? Alors, je sais bien qu'on utilise les termes ossis et ossis, mais est-ce qu'il existe une identité est-allemande? Et qu'est-ce qu'il y aurait derrière?
Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Je voudrais d'abord dire que allemande l'Est, identité est-allemande, c'est quelque chose qui est lié uniquement à la RDA. Par exemple, Goethe, il a vécu à Weimar, étudié à Leipzig, et à ma connaissance, personne n'a jamais dit que Goethe était un Allemand de l'Est. Donc c'est vraiment un terme qui désigne les gens qui ont une biographie liée de près ou de loin à l'expérience de la RDA. Et c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont partis à l'Ouest, donc d'autres qui ont fait le chemin dans l'autre sens. Donc qui est Allemand de l'Est vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'identité est-allemande? C'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a en effet une identité est-allemande quand même, et Jana Hensel et Engler l'explique très bien, qui est lié non pas tant à la RDA, mais à ce qui s'est passé après, à l'expérience difficile des années juste après la chute du mur, et donc à une dévalorisation globale de leur capital symbolique, culturel, qui fait que c'est créé une sorte d'identité est-allemande autour de ça. Ça, on l'a vu par exemple avec un bâtiment à Berlin qui est le Palais de la République. C'était un bâtiment auquel les Berlinois de l'Est n'étaient pas plus attachés que ça. Certains oui, mais voilà, il était lié à des expériences de fêtes, de concerts, de restaurants. C'était aussi le siège du Parlement. Mais au moment où on a dit on va le déboulonner, on va le détruire pour reconstruire l'ancien château de Berlin, là, il y a eu une forme d'attachement. C'est devenu ce que Nora appellerait un lieu de mémoire. Une forme d'attachement à ça, rétrospectif, et une volonté de le sauver. Et c'est un peu la même chose pour l'identité est-allemande. C'est-à-dire que personne ne souhaite reconstruire le mur, personne ne souhaite revenir en RDA, mais il y a un attachement à une expérience de vie dont on voudrait qu'elle soit reconnue. Une expérience de vie qui passe par, justement, des formes de solidarité différentes, un rapport au travail différent, où le travail était peu étanche avec le reste de la vie sociale, des rapports, entre les hommes et les femmes différents, enfin, tout ça, c'est l'identité est-allemande. Mais c'est surtout ce qui s'est passé après 90 qui la détermine.
On va y revenir sur le fameux tournant, le Wende, comme on dit en allemand. On va y revenir. Emmanuel Droit, sur cette question de l'identité est-allemande et de la nostalgie qui va avec, il y a même un néologisme, pour ça on parle d'ostalgie, et donc qui marque effectivement cette montée en puissance de cette revendication d'une identité est-allemande. Mais est-ce que cette revendication d'une identité est-allemande, elle est propre vraiment aux Allemands de l'ancienne RDA, ou en réalité c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, parce que on voit, et pas seulement d'ailleurs en Allemagne, on voit un peu partout dans le monde des revendications de plus en plus identitaires, avec des identités spécifiques, végétariens, féministes, musulmans, que sais-je encore, on pourrait en trouver plein d'autres. Alors est-ce qu'au fond, l'identité est-allemande n'est pas une identité que l'on revendique désormais parce que tout le monde a de plus en plus tendance à revendiquer des identités spécifiques? Emmanuel Droit.
Oui, c'est une question complexe, la question de l'identité est-allemande, parce que au départ, vous avez un discours politique des élites politiques ouest-allemandes qui ont, à un moment donné, au milieu des années 90, quand les transferts et les réformes qui étaient censées aboutir très rapidement à un redressement de la partie orientale de l'Allemagne, ont montré que finalement ça allait prendre plus de temps. Et dès 1994, Helmut Kohl, dans sa campagne électorale, ne parlait plus des problèmes à l'Est, mais des problèmes de l'Est, comme s'il y avait un problème avec la figure du Ossi qui n'arrêterait pas de se plaindre et n'arriverait pas à prendre en main son destin pour finalement remonter la pente. Et cette construction d'une figure stigmatisante a conduit en réaction, Elsa Goudin a signalé la figure de Jana Hensel, il y a toute une génération qui, celle des née dans les années 70, donc qui avait 15-16 ans au moment de la chute du mur, qui ont traversé les années 90 avec, en effet, soit sous la forme d'expériences vécues, soit sous la forme de réception de ce discours politique un petit peu stigmatisant et arrogant des élites ouest-allemandes, médiatiques et politiques notamment, mais aussi économiques d'une certaine manière, eh bien, ils ont construit en retour une identité est-allemande, mais c'est à mon avis une identité essentiellement générationnelle. C'est-à-dire que si vous prenez ce qu'on appelle les Wendekinder, les enfants, les adolescents nés après 1990, Il se trouve qu'à Sciences Po Strasbourg, on a des étudiants, par exemple, de Dresde, donc, qui sont nés au début des années 2000 et qui arrivent dans le cadre d'un séjour Erasmus à Strasbourg. Ils se définissent pas comme Allemands de l'Est. Ils vont se définir comme Saxons. Et l'identité régionale, aujourd'hui, elle est, à mon avis, tout aussi importante que ce discours médiatique sur une identité est-allemande, parce que, comme Elisa l'a rappelé, c'est quand même très complexe de définir qui sont ces aussi. Derrière cette figure homogénéisante, bah vous trouvez en Allemagne de l'Est des perdants de la réunification, vous trouvez des gens qui ont développé des projets innovants et qui sont devenus des gagnants de la réunification, vous avez des Allemands de l'Ouest qui ont investi en effet Berlin, Leipzig, Dresde, bref, toutes les grandes métropoles dynamiques et qui ne se considèrent pas comme Allemands de l'Est. Et puis vous avez des Allemands de l'Est qui, eux, ont migré à l'Ouest et qui ne se définissent pas forcément comme Allemands de l'Est. Donc on a essentiellement quand même une construction médiatique qui, à mon avis, essentialise l'Allemand de l'Est comme la figure de quelqu'un qui est jamais content et qui se plaint toujours des disparités et qui ne reconnaît pas en fait les efforts accomplis par l'Ouest dans le cadre des transferts de fonds et la modernisation des infrastructures.
Et bien justement, on va peut-être se pencher un instant sur la manière dont les médias ont construit tout cela. Vous parliez des différentes générations, parce qu'effectivement, dans l'histoire de la RDA, on a d'abord les personnes qui sont nées dans les années 1920-1930 qui ont participé à la construction de la RDA, celle de l'après-guerre, dans les années 40-50, et puis la troisième génération que vous évoquez, les fameux enfants de la zone, nés, eux, dans les années 70. On va d'abord s'intéresser à un jeune étudiant est-allemand, on est en 1974, c'est une archivina, et puis ensuite, on revient à Elisa Gudenstein-Mein.
En plus des études et de la spécialisation choisie plus tard, il y a naturellement l'enseignement de base du marxisme-léninisme en trois parties distinctes. En première année, la philosophie et le matérialisme dialectique. En deuxième année, l'économie politique du capitalisme et du socialisme. Enfin, en troisième année, l'économie en régime communiste. Et il est à souligner que cet enseignement de base du marxisme est obligatoire, dans notre propre intérêt d'ailleurs. C'est aussi un plaisir, parce que précisément face aux problèmes politiques actuels, aux questions qui se posent à nous et qui nous préoccupent, cela nous aide à apporter nous-mêmes les réponses et à expliquer nous-mêmes les événements mondiaux.
Voilà, vous notez évidemment le tropisme économique. Alors, je ne sais pas si c'est ce jeune étudiant qui, de lui-même, avait envie de parler des questions économiques ou si c'est la question du journalisme, mais en réalité, on a un peu une idée. Elisa Gudenstein-Mein, vous évoquez dans votre livre la question justement de ces différentes générations. En quoi est-ce qu'elles se sont construites une identité est-allemande peut-être différente en fonction des âges? Et puis on va regarder ensuite comment est-ce que ces différentes générations ont vécu le processus de réunification, parce que ça n'a pas été peut-être la même chose pour tout le monde. Je vous en prie.
Oui, non, en effet, ça fait une grande différence si vous avez, par exemple, 50 ans au moment de la chute du mur et que, à 50 ans, c'est plus difficile de se réinventer professionnellement, personnellement aussi, que si vous avez 15 ans et du coup la possibilité d'aller étudier quelque part en Europe de l'Ouest et que, d'une certaine façon, la chute du mur vous donne des ailes. Donc, c'est pas du tout la même expérience de vie. En effet, on dit souvent qu'il y a trois générations d'Allemands de l'Est. La première génération née dans les années 20-30, qui sont les pères fondateurs, qui ont souvent, pour certains, enfin c'est Christa Wolf, etc., ces figures-là qu'on connaît en France, ont adhéré à la RDA par antifascisme, c'est-à-dire par volonté de se racheter, entre guillemets, de prouver au monde qu'on pouvait construire une vraie société socialiste sans classe pour effacer, enfin on peut pas les effacer, mais... Voilà, c'est une sorte de conséquence du traumatisme du nazisme. Il y a eu le nazisme, montrons maintenant que l'Allemagne peut faire autre chose. Et ça, ça a été souvent un attachement très fort. On a une personne qui est comme ça dans les témoignages du livre, restée très attachée à l'idéologie de l'antifascisme.
Le livre en question, c'est la RDA après la RDA. Je redonne son titre, qui vient de paraître.
Exactement. Et après, il y a toute la génération du baby boom, en fait. Donc, ceux qui sont nés dedans, hein, les Hineingeborenen, qui ont connu, en fait, uniquement la RDA et qui ont, voilà, quand le mur est tombé, ont souvent eu de grosses difficultés à conserver leur emploi, à retrouver un emploi quand ils l'avaient perdu. Et puis la génération, en effet, qu'évoquait Emmanuel, celle des années, celle qui est née dans les années 70 ou après, même les générations suivantes, et qui n'ont connu la RDA que comme enfant, et donc c'était trop tôt pour avoir des décisions douloureuses à prendre, comme est-ce que je vais adhérer au parti pour pouvoir faire telle ou telle chose qui me tient à cœur, est-ce que je vais faire le service militaire, enfin voilà, ce genre de questions s'est pas posé, et c'était juste le bon moment. Et c'est cette génération-là qui aujourd'hui réussit à faire ce que n'avaient pas réussi à faire leurs parents, c'est-à-dire à revendiquer un autre regard sur leur biographie, sur leurs expériences de vie, et qu'on parle, qui demandent à ce qu'on parle autrement de la RDA, alors que leurs parents, pour tout un tas de raisons, avaient plus de mal à revendiquer ça, à demander ce regard plus juste sur leurs expériences de vie. Donc en effet, c'est trois générations très distinctes.
Emmanuel Droit, toutes ces personnes de l'Est ont évidemment été marquées par le tournant des années 90, qu'on appelle le FEN2, pardonnez-moi si je le prononce.
Avec un V, VEN2. Comme,
VEN2,
comme
VEN2, voilà.
Le W, c'est un V.
Pardon, je ne suis pas germanophone, mais c'est vrai que voilà. Qu'est-ce qui, Emmanuel Droit, vous qui avez signé cet ouvrage 24 heures de la vie en RDA, donc cette plongée dans le quotidien finalement de cette époque-là et de cette région-là, qu'est-ce qui dans le quotidien va changer précisément à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est un séisme, pas seulement politique, mais aussi social et sociétal?
Ah oui, vous avez raison d'utiliser le terme de séisme. On a une vraie expérience de césure et on a parfois du mal, très mal, enfin beaucoup de mal à mesurer ce que ça a pu représenter. Et en ce sens, la réunification, c'est d'abord une expérience de séisme pour les Allemands de l'Est, alors que pour les Allemands de l'Ouest, et c'était aussi la promesse d'Helmut Kohl, d'une certaine manière, au début des années 80, rien n'a changé. Et l'idée, c'était de continuer selon le modèle de la République de Bonn, avec le capitalisme rénant et un État social généreux, le tout dans un cadre démocratique. Alors, ce qui a changé, tout, c'est-à-dire la langue. Quand vous grandissez, Elisa a bien rappelé les différentes générations qui ont été façonnées par le socialisme. Bien, vous grandissez dans un contexte linguistique bien particulier. Donc, il y a des noms pour désigner les supermarchés, il y a des noms pour désigner des produits ou des pratiques. Tout ça est balayé et on adopte évidemment le langage de l'Ouest. On jette, Nicolas Offenstadt l'a très bien montré dans son essai ethnographique sur la RDA, un pays disparu. Ben on jette les meubles, on jette son mobilier, on jette finalement tout ce qui matériellement pouvait rappeler une société de consommation socialiste qui n'a pas tenu ses promesses. Ce qui m'a frappé, moi, dans l'étude que j'ai consacrée à cette ville au sud de Leipzig, Zeitz, en 1974, c'est que le régime entendait promouvoir un modèle de société de consommation socialiste avec des logements modernes, avec des zones piétonnes très dynamiques, avec une autre manière de consommer, mais en se rapprochant des standards occidentaux. Cette promesse a échoué. Et donc, au début des années 90, eh bien, on veut adopter les standards occidentaux, on veut adopter les produits occidentaux, on veut boire du café Nescafé, on veut s'acheter des produits occidentaux qu'on n'avait pas la possibilité de s'acheter si on n'était pas un tout petit peu privilégié ou si on n'avait pas de la famille de l'Ouest qui avant vous envoyait des vest packets, des paquets de l'Ouest. Donc tout change en fait et il faut une énorme capacité d'adaptation, beaucoup de flexibilité et ils l'ont prouvé d'une certaine manière. Wolfgang Engler parlait des Allemands de l'Est comme l'avant-garde de la modernité. Ils ont subi de plein fouet les réformes néolibérales. L'Allemagne de l'Est a été le premier laboratoire du néolibéralisme en Europe de l'Ouest, si on considère que la RDA, de par son entrée dans la RFA, fait désormais partie de la partie occidentale de l'Europe. Avec la Pologne, ils ont été les premiers à vraiment expérimenter le néolibéralisme sur le sol européen. Et donc, ils ont, de cette manière-là, dû changer complètement leurs coordonnées, leurs repères. Et puis, quand vous avez une société qui était centrée sur l'entreprise, un monde socialiste du travail, qui était aussi un monde de prestations sociales avec des centres de vacances, des crèches, tout un système d'encadrement culturel et que votre entreprise ferme et que par là, c'est une sorte d'expérience cumulative négative. Vous cumulez à la fois la perte de votre emploi, ce qui est dans une société du travail comme l'était la RDA, c'était inimaginable. Le chômage, c'était que pour les pays capitalistes. Mais en plus, vous cumulez la perte de l'encadrement culturel, la perte des centres de vacances. Alors certes, vous avez la liberté de voyager. Relisez les magnifiques romans de Ingo Schulze, Histoire sans gravité. Ce que veulent faire les Allemands de l'Est, c'est comme leurs homologues de l'Ouest, c'est aller en vacances en Italie. Le roman s'ouvre sur ça. Oui. Mais encore faut-il en avoir les moyens.
Elisa Gutenstein-Mann, évidemment, on a ces images du mur de Berlin qui s'effondre et évidemment ces gens de l'Est qui se sentent libérés, peut-être que c'est exagéré, mais en tout cas qui veulent effectivement pouvoir partir. Et d'ailleurs, beaucoup vont partir, pas seulement en Allemagne de l'Ouest, mais beaucoup plus loin également. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié aussi qu'il y avait des personnes qui, peut-être, se sentaient bien dans ce quotidien que nous décrivait un peu Emmanuel Droit et qui, d'une certaine manière, ont un peu subi, en réalité, cette réunification. Ces dernières années, on a beaucoup entendu l'idée selon laquelle, au fond, cette réunification, ça serait plutôt une annexion, avec beaucoup de critiques autour de ce terme-là. Mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, quand vous entendez l'idée qu'en réalité, cette réunification a été une annexion, parce que les gens ont subi, ont été forcés d'une certaine manière. Alors, beaucoup, évidemment, bien sûr, étaient ravis de rentrer dans le progrès matériel, etc., etc., mais peut-être pas tous. Peut-être faut-il nuancer les choses.
Exactement, c'est le bon mot, faut nuancer. Il faut nuancer les choses. En effet, si vous voulez, annexion, c'est un terme un peu polémique, mais c'est vrai que...
Je l'ai utilisé à dessein.
Oui, bien sûr, réagir. Je sais bien. Il y a eu un certain nombre d'injustices économiques très claires. Enfin, bon, ça, c'est largement connu. On a pillé un peu les entreprises est-allemandes, les richesses est-allemandes. Ça, c'est une chose. On a introduit une parité de 1 pour 1 qui fait que les entreprises est-allemandes ne pouvaient plus du tout vendre à leurs débouchés traditionnels. Tout ça, c'est des choses qui sont connues et qui sont en effet parfaitement des injustices qu'on peut pas réparer. Donc, il y a cette forme.
Et pardon, pourquoi on a fait ce choix-là?
Ben, c'est le chancelier Kohl qui a fait ce choix-là en disant, en gros, aux économistes, moi, je fais de la politique, vous faites de l'économie, vous trouverez bien une solution. Moi, j'ai besoin que ce soit un pour un pour que les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest soient sur un pied d'égalité. Mais d'un point de vue économique, c'était absolument pas rationnel. C'était une catastrophe annoncée pour l'économie est-allemande. Donc, en effet.
Il n'avait pas comme idée, pardon de vous couper, pour qu'on comprenne bien les choses. Parce que vous dites, ce sont des choses bien connues, ce sont des choses aussi qui méritent qu'on s'attarde dessus. Il n'y avait pas d'ambition politique de mettre à terre l'économie est-allemande.
Non, bien sûr. Non, c'est pas une ambition politique de mettre à terre l'économie est-allemande. Je pense qu'on a fait aussi des erreurs parce qu'on, tout simplement, on n'a pas vu venir à la catastrophe économique aussi, même si certains l'avaient annoncé. Et puis des erreurs stratégiques. La Treuhand, par exemple, a pas toujours fait les bons choix. Ça, c'est une certitude. On a décidé de vendre les entreprises non pas aux plus offrants, ce qui aurait été un critère objectif, mais justement à ce qui présentait en théorie les meilleures garanties en termes de sauvegarde de l'emploi. Et puis en fait, après, il s'est avéré que ce critère n'avait pas du tout été rempli et que ça a été des fermetures massives. Donc le terme d'annexion, il signifie un peu ça, cette idée que voilà, on aurait un peu pillé la RDA, et puis plus généralement il y a cette idée que on n'aurait rien retenu de l'expérience de RDA, qui sur certains voilà.
Et il veut dire aussi, et je vous donne la parole, Emmanuel Droit, il sous-entend aussi l'idée que les habitants des Nouveaux-Länder n'ont absolument pas été associés. Elisa Gutenstein-Mann, c'est à vous que je pose la question, qu'ils n'auraient pas du tout été associés aux modalités justement de ce tournant, de cette transition économique et politique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont été totalement mis à l'écart ou est-ce qu'ils ont quand même contribué?
Très peu.
Réflexion.
Ils ont très peu. Alors, pourtant, il y avait le potentiel. C'est-à-dire que dans les années du tournant, justement, c'était des années très, très intenses au niveau réflexion. On réfléchissait, beaucoup d'intellectuels, d'initiatives citoyennes, de journalistes se mettaient, fondaient des tables rondes pour réfléchir à un modèle de société qui serait un socialisme, mais avec le pluralisme, avec la liberté d'entreprendre, les libertés publiques, etc. Et donc, on a commencé à esquisser là un projet de société qui a ensuite été complètement mis à la poubelles d'un coup, parce que pour aller plus vite, on a intégré la RDA dans la RFA. Mais là, il y avait vraiment une possibilité de construire quelque chose qui n'a pas du tout été pris en compte, et tout ça a été jeté très vite.
Et on l'a oublié aussi peut-être, mais il y avait une option politique qui consistait à créer une confédération en gardant la RDA et la RFA, et finalement, on n'a pas conservé cette idée. Emmanuel Droit.
Oui, sur ce sujet, il est quand même intéressant de noter que s'il y a eu une sorte d'éveil de la société civile est-allemande à l'automne, en fait depuis le mois de mai 1989 et la contestation des élections municipales qui avait été truqué. Après le 9 novembre et après la chute du mur, vous avez quand même un mouvement très fort d'Allemands de l'Est qui réclame une chose et une seule chose, c'est l'accès à la prospérité matérielle et donc à la société de consommation de l'Ouest. Et c'est comme ça qu'on passe aussi de Wir sind das Volk à Wir sind ein Volk. On passe de je suis le peuple, nous sommes le peuple, à nous sommes un peuple, parce qu'il y a ce désir en fait de faire partie d'un ensemble politique qui offre les conditions matérielles les plus avantageuses. Et il faut pas oublier que la CDU d'Helmut Kohl, qui a remporté les élections en Allemagne de l'Est, les premières élections démocratiques en RDA en mars 90, avait fait campagne sur la prospérité pour tous. Et Helmut Kohl était en effet, je crois, très soucieux de faire entrer les Allemands de l'Est sur un pied d'égalité, d'où la réforme monétaire basée sur la parité. Elisa Goudin a bien rappelé, c'était pas rationnel d'un point de vue économique. Parce que on s'est très vite rendu compte que, contrairement au discours officiel des autorités communistes présentant la RDA comme la 10e puissance économique industrielle dans le monde, eh bien l'économie est-allemande était quand même à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on avait, il y a un tournant technologique qui a été raté dans les années 70-80. Moi, je l'ai vu à l'échelle des entreprises de Zeitz, notamment une grande entreprise qui fabriquait des poussettes et des landaus. Eh bien, la pénurie, le manque de matériel, les pannes de machines s'accumulaient. Donc, l'économie était quand même au bout du rouleau, et que les attentes de la Treuhand par rapport à d'éventuelles rentrées d'argent liées au vent des entreprises ne s'est pas réalisée parce que ces entreprises-là n'étaient plus compétitives. En effet, la parité monétaire a lourdement handicapé les entreprises est-allemandes. Et puis, vous avez tout un marché. Le marché est-européen qui s'est fermé, puisque dans le cadre des transitions économiques, il ne pouvait plus exporter en Union soviétique ou en Pologne ou en Roumanie dans le cadre de ce marché commun socialiste. Donc la Treuhand aujourd'hui, qui est un véritable lieu de mémoire négatif en Allemagne de l'Est, qui est érigé comme on parle de bad bank, enfin, la mauvaise banque, la méchante banque de l'Ouest. Elle a quand même eu, dès le départ, en effet, Elisa l'a rappelé, le souci de sauver des emplois. Elle a commis quelques erreurs, mais on cherche à instrumentaliser aujourd'hui dans le débat politique, et notamment l'AFD et les Linke, comme par hasard, cherchent à mettre en place des commissions qui visent à faire le procès d'une institution qui, certes, a produit du chômage de masse, mais la véritable responsabilité, elle peut pas incomber à cette institution. Elle n'a fait que gérer ce qu'elle pouvait faire au début des années 90 par rapport à un héritage industriel qui était en situation de faillite.
Elisa Goudenstein.
Oui, je voulais ajouter une petite chose sur toutes ces disparitions. En fait, ça va aussi avec une mise en récit plus globale du fait que toute cette expérience de la RDA n'aurait été qu'une sorte d'accident de l'histoire à réparer, une sorte de parenthèse qui n'aurait pas dû advenir. Comme si la RDA, finalement, avec son modèle social qu'elle proposait, était juste une sorte de bulle idéologique qui aurait éclaté et puis retour à la normale. Et donc, ça va aussi avec ce récit-là de la parenthèse à refermer, etc. Toutes ces disparitions, c'est pas seulement du concret, c'est aussi de la mise en récit.
Que l'on rejette en partie et qui, d'une certaine manière, est à mettre aussi en regard avec ce ressentiment qu'on évoquait tout à l'heure en début de l'émission, ce ressentiment qui se traduit politiquement par la montée en puissance de l'AFD, c'est-à-dire c'est aussi d'avoir refusé, balayé d'un revers de manche ce qu'on considère en tout cas dans l'ex-Allemagne de l'Est comme des choses positives. C'est ça aussi qui a produit cette frustration.
Exactement, la frustration parce que les Allemands de l'Est questionnent notre modèle de développement aujourd'hui justement, dont on voit bien qu'il ne peut pas continuer comme ça. C'est un modèle de développement où les inégalités s'accroissent, qui pollue, qui détruit la planète. Et justement, le fait qu'il questionne ça, c'est ça qui nous a semblé intéressant dans le livre. Parce que soit on dit que justement, il y a soit ce modèle-là, soit la dictature de Herda et rien entre les deux. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ce qui paraît à certains citoyens comme la seule alternative, du coup, c'est l'AFD. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle alternative, du coup. Donc c'est important pour moi d'insister sur le fait que non, il n'y a pas que ces deux pôles-là. Il y a aussi une façon de questionner notre modèle de développement en le réformant.
Oui, d'autant que cette mémoire-là, en réalité, elle est quasiment absente du paysage allemand. C'est-à-dire que dans les livres d'histoire, on n'en parle quasiment pas. Même dans les familles, on a du mal à transmettre ce
Oui, la plupart des gens, des Allemands de l'Est, disent quand on lit un livre d'histoire ou quand on va au musée de la RDA, on ne reconnaît rien de son expérience. En fait, on est très, très étonnés par ça, en effet. Mais ça commence à changer.
Ça commence à changer. Oui, ça commence à changer. Justement, on va le voir avec notre nouvelle invitée qui est Melanie Stein, qui est journaliste, qui vit à Hambourg, mais qui est née et qui a grandi à Rostock, qui est une ville de l'ancienne RDA. L'année dernière, elle a lancé l'initiative Wir sind der Osten. Pardon, si je prononce pas correctement, vous le faites mieux?
Wir sind der Osten.
C'est beaucoup mieux. Qu'on peut traduire par Nous sommes de l'Est. Il s'agit d'une collection de portraits d'Allemands vivant donc à l'Est, jeunes, moins jeunes, anciennement ou récemment installés dans la région. Ces portraits sont ensuite publiés et partagés sur les réseaux sociaux, le but étant de montrer qu'après avoir été façonnés par la réunification, eh bien, ils façonnent en retour la société allemande et ainsi donner peut-être une autre image des habitants de l'Est. Elle va commencer par nous expliquer ce qui l'a poussée justement à lancer cette initiative. Elle est au micro de Bertie Bourdon.
Il y a toutes les tranches d'âge, aussi bien des retraités que de très jeunes gens de 18 ans. Nous avons constaté que la montée de l'extrême droite populiste s'est accompagnée d'une tendance des médias à simplifier en disant que tous les Allemands de l'Est votaient pour les partis d'extrême droite. Pour nous, c'est une difficulté. C'est un problème pour notre démocratie. Ce n'est jamais bon de mettre tout le monde dans le même panier. Et les Allemands de l'Est n'avaient pas vraiment de plateforme sur laquelle s'exprimer. Donc nous leur en avons donné une, où ils peuvent raconter leur histoire et comment ils envisagent l'avenir, une plateforme qui serait le reflet de la majorité.
Et est-ce que la faible part d'Allemands originaires de l'Est du pays parmi les élites allemandes participe aussi à ce problème de représentation ?
Oui,
seulement 1,7% des postes les plus élevés sont occupés par des Allemands de l'Est. C'est vraiment très peu et par conséquent, leur point de vue est absent du débat général. Mais la tendance va dans le bon sens. Si vous prenez les personnes nées après 1970, les différences ne sont plus aussi importantes. Et est-ce que le nom de votre organisation, Wir sind der Osten, et le hashtag que les utilisateurs peuvent utiliser et qu'on peut traduire par « Nous sommes Est-Allemands », traduit une revendication de cette origine ?
Non,
c'est plutôt un coup de semonce aux médias. Cela n'a rien à voir avec une fierté d'être Allemand de l'Est. C'est plutôt une phrase ironique. Nous disons plutôt « Hey, vous mettez tout le monde dans le même panier, vous parlez des Allemands de l'Est, mais ils n'existent pas. On parle d'individus avant tout. Alors nous avons décidé de partager leurs témoignages, leurs histoires individuelles. »
Sur le site, on retrouve par exemple le portrait d'une jeune fille, Maxi. Elle est née en 1999 et explique que les catégories Est et Ouest n'ont pas beaucoup de sens pour elle, mais qu'elle était surprise, lorsqu'elle voyage ailleurs dans le pays, que certaines personnes de son âge lui précisent qu'ils ne sont jamais allés en Allemagne de l'Est. Comment se construit l'identité d'Allemand de l'Est pour des jeunes qui sont nés dans les années 90 ?
So many people, especially from the western part, say it's...
De nombreux Allemands, surtout de l'Ouest, déclarent qu'il n'y a plus de distinction, que ces catégories ne sont plus importantes. Mais même des jeunes nés après 1990 se sentent parfois Allemands de l'Est, et ce parce que leur propre perspective est comme inexistante. Si vous regardez un documentaire sur la musique des années 60, par exemple, il ne contiendra sans doute aucune référence à la musique est-allemande, parce que les médias n'en parlent pas. Les médias ne parlent que des problèmes s'agissant de l'Allemagne de l'Est. Du coup, même les plus jeunes finissent par se sentir est-allemands. C'est un phénomène que l'on appelle l'altérisation. Donc oui, nous avons vraiment besoin de points de vue est-allemands, que ce ne soit pas seulement Helmut Schmidt qui soit une figure allemande, mais aussi Erich Krenz, et que ce dernier appartienne à l'histoire allemande et pas uniquement à l'histoire est-allemande. Lorsque nous en serons là, je pense que nous pourrons vraiment nous sentir réunifiés.
Merci Cette année, pour le 30e anniversaire de la réunification, Melanie Stein, vous avez lancé le hashtag « Wir sind deins », qu'on peut traduire par « Nous ne faisons qu'un ». On peut le voir comme une référence au slogan scandé en 1989 en RDA « Wir sind ein Volk », « Nous ne sommes qu'un seul peuple ». Mais vous lui donnez un sens nouveau. Est-ce une manière de dépasser la simple division entre l'Est et l'Ouest pour comprendre l'Allemagne d'aujourd'hui ?
Mm-hmm. So because of these numbers, because there are only a few people in higher positions from East Germany.
Alors, à cause de ces statistiques, parce que si peu d'Allemands de l'Est occupent des postes élevés, on nous a souvent demandé, ne pensez-vous pas que nous devrions fixer un quota pour les Est-Allemands, comme nous en avons pour les femmes? Mais nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée 30 ans après la chute du mur. En revanche, nous avons vraiment besoin d'un quota pour la diversité. Environ 20% de la population allemande vient d'Allemagne de l'Est, mais bien plus de personnes sont issues de l'immigration. Donc nous devons montrer les points de vue de chacun, de tous les groupes qui sont un peu laissés pour compte. C'est pour cette raison que nous avons pensé, ok, allons encore plus loin, la réunification ce n'est pas seulement entre l'Est et l'Ouest, mais entre de très nombreux groupes, et nous voulons leur donner la parole à eux aussi.
Vous avez récemment ouvert une rubrique sur votre site, à côté de ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus, on retrouve les portraits de personnes originaires de l'Ouest qui décident de s'installer à l'Est, suivant le chemin inverse de la migration traditionnelle de l'Est vers l'Ouest. Depuis quand est-ce que ce phénomène existe et quelles sont les motivations de jeunes gens qui vont étudier à Leipzig, par exemple ?
Oui, c'est vrai que ces dernières années, de plus en plus d'Allemands sont partis étudier en Allemagne de l'Est. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis la chute du mur, il y a eu un mouvement important. On estime qu'environ 2,5 millions de personnes sont venues d'Allemagne de l'Ouest, des chefs d'entreprise pour la plupart, qui ont assumé les plus hautes fonctions en Allemagne de l'Est. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que les inégalités persistent.
Solange ich jagen kann nach Fragen und die Antworten nicht sagen. Solange ich ganz für mich alleine durch die Sumpfgebiete eile. Ist alles schön verwirrt und fremd und ich bin ganz in meinem Element.
C'était Melanie Stein, donc au micro de Bertie Bourdon. Un grand merci à nos invités, Emmanuel Droit qui était avec nous en duplex de France Bleu Alsace. Et je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire ce duplex. Et je rappelle que vous êtes auteur, Emmanuel Droit, de 24 heures de la vie en RDA qui était paru au PUF, aux Presses Universitaires de France. Un grand merci également à vous, Elisa Gudenstein-Mein, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle, vous, que vous aviez écrit « La RDA après la RDA » avec Agnès Harpe, des Allemands de l'Est racontent. Et puis, tiens, tout dernier mot, parce qu'on parlait tout à l'heure de frontières fantômes, vous parliez d'un film qui évoque justement cette question.
Exactement,
des frontières fantômes.
Ça m'a fait penser à un film qui s'appelle « Le Contrôleur » de 1994. C'est l'histoire d'un homme qui était pendant 30 ans garde-frontière et qui, après la chute du mur, n'arrive pas à s'habituer au fait que tout ça est fini. Donc, tourne, fait les mêmes gestes, les mêmes paroles, s'adresse aux fantômes du passé et tous ces petits rituels pendant des années visent à réintroduire un peu de présence dans l'absence, comme tout fantôme qui se respecte.
Le titre du film, vous dites ?
Le Contrôleur.
Le contrôleur. Merci beaucoup. On poursuivra justement autour de ces frontières fantômes. Certaines ne sont pas complètement fantômes, vous allez voir, elles sont un peu plus dures que celles qu'on a évoquées aujourd'hui, mais ça sera pour demain. D'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Direction les États-Unis. En arrivant à la Maison-Blanche, Donald Trump avait promis de renverser le cours d'une politique internationale américaine qu'il jugeait nuisible aux intérêts des États-Unis. Quel bilan tirer de ces 4 années de présidence ?
Le président qui avait imaginé l'ordre le pays qui avait imaginé l'ordre libéral international, ce tissu de traités internationaux destiné à ouvrir les frontières aux échanges de toute nature, voilà que ce même pays n'en voulait plus avec Donald Trump. La mondialisation libérale, dont les critiques avaient longtemps prétendu qu'elle était destinée à favoriser les intérêts américains, était ainsi récusée par Washington au nom des emplois perdus dans l'industrie pour cause de délocalisation. Bizarrement, le président républicain et les altermondialistes se sont mis à parler un langage étrangement convergent, « Abat la mondialisation libérale ». La différence, c'est que Trump, lui, a eu les moyens de mettre ses idées en pratique. Il a montré tout le mépris qu'il concevait envers les alliés européens, en les avertissant que la garantie de sécurité américaine était devenue aléatoire. Il a traité sur le même pied les dictateurs, à la Kim Jong-un et les chefs d'État des nations démocratiques comme Angela Merkel. Fini le temps où l'Amérique prétendait répandre la démocratie à travers le monde. Il s'est assis sur les traités commerciaux internationaux signés par ses prédécesseurs. Il a lancé contre le rival chinois une véritable guerre commerciale et technologique. Les partisans de l'ordre international libéral sont indignés. Ils l'ont fait savoir à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, Ban Ki-moon a plaidé pour que le défi du Covid-19 soit l'occasion de relancer la coopération internationale. La coopération, la transparence et l'adhésion à des règles et des régulations communes est le meilleur moyen de garantir la paix, a averti l'ancien secrétaire général de l'ONU. Josep Borrell a reconnu que les expressions telles que le système international multilatéral ou encore l'ordre international basé sur des règles apparaissent aujourd'hui quelque peu datés. Le slogan à la mode, déplore le haut représentant de l'Union européenne, c'est « reprendre le contrôle ». Et cependant, insiste-t-il, je le cite, « un ordre international basé sur des règles donne de la sécurité aux États. L'alternative, c'est la force fait le droit, la recette d'autrefois pour l'insécurité et les guerres ». L'Union européenne, qui a échoué à se constituer en Europe puissance du fait de ses divisions internes, déplore le grand retour des empires.
Et alors Brice, une fois que Trump aura quitté la Maison-Blanche, comme beaucoup de sondages l'annoncent, allons-nous renouer avec l'ordre libéral international sous garantie américaine ?
Rien n'est moins sûr si l'on en croit Michael Beckley, un professeur de sciences politiques américaines, qui signe dans la revue Foreign Affairs de novembre prochain une étude qui est déjà en ligne. L'ère de l'hégémonie libérale américaine est un artefact qui n'aura brillé que durant quelques années après la guerre froide, écrit-il. Et la thèse qu'il expose, c'est celle qu'a déjà défendue récemment Peter Zeihan dans un livre paru au début de cette année qui s'appelait « These United Nations, the Scramble for Powers in an Ungoverned World ». Nation désunie, la foire d'empoigne pour le pouvoir dans un monde sans gouvernance. Pour les défenseurs de cette thèse, la politique extérieure de Trump n'a pas constitué une rupture avec le passé, mais un retour aux sources. La diplomatie américaine, disent-ils, a toujours été transactionnelle. Au XXIe siècle, croit-il pouvoir annoncer, Beckley donc, les États-Unis resteront la nation la plus puissante du monde, comme ils l'ont été au XXe. Mais ils ne se comporteront plus en garant de l'ordre international libéral. Le cynisme de Trump pourrait bien marquer l'entrée de son pays dans une ère nouvelle que l'auteur de cet article qualifie d'avance de « siècle de l'illibéralisme américain ». On oublie en effet que les États-Unis, avant de déployer des forces importantes sur les théâtres européens à partir des années 40, se sont toujours efforcés de se tenir à distance des zones de conflit. Ils refusaient systématiquement les alliances militaires susceptibles de les entraîner automatiquement dans des guerres lointaines. Mentalité insulaire. Dotés de vastes ressources naturelles et d'un marché intérieur considérable, ils se considéraient comme autosuffisants et se protégeaient de la concurrence commerciale européenne par des droits de douane très élevés. De ce point de vue, l'époque 1942-2009, où les Américains ont agi en pivot de vastes alliances militaires, devrait être considérée comme une simple parenthèse. Depuis la fin de la guerre froide, un pourcentage croissant d'Américains refuse que leur pays dépense des centaines de milliards de dollars pour assurer la sécurité de pays mal connus. Leurs interventions militaires en Afghanistan, en Irak, en Libye ont été des échecs. Aujourd'hui, 60% des Américains estiment que les États-Unis devraient dorénavant s'occuper de leurs propres affaires. Promouvoir la démocratie ou bien les échanges commerciaux dans le monde ne fait plus partie des priorités. Et Donald Trump les aura donc entendus. Les États-Unis vont donc très probablement renouer avec leur tradition insulaire, pas par nostalgie, mais parce qu'ils vont y être poussés, comme je vais essayer de l'expliquer demain, par l'état du monde.
Eh bien, rendez-vous demain, Brice, pour la suite. On peut retrouver évidemment cette chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.